Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour. Le 27 mars 1854, la France entrait en guerre aux côtés de l'Angleterre contre la Russie et pour la défense de l'Empire ottoman. C'était là le début de la guerre de Crimée, la première marche remettant en cause l'Europe du Congrès de Vienne. Cette remise en cause était loin d'être fortuite, elle était l'œuvre d'un homme. Il s'agit, vous l'aurez compris, de l'empereur Napoléon III. Encore de nos jours très très controversé, l'empereur des Français, le plébiscité du mois de décembre 1848, avait déclaré en arrivant au pouvoir « l'Empire, c'est la paix ». Pourtant, la France dut faire face à trois conflits sur le continent. Que fut la politique extérieure de Napoléon III? Répondait-elle à un projet idéaliste ou fut-elle, au contraire, en avance sur son temps par son soutien aux nationalités? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, un jour dans l'histoire reçoit Pierre Milza. Pierre Milza, bonjour.
Bonjour.
Je vous remercie vivement d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Alors, faut-il encore vous présenter? Vous êtes historien, professeur à sciences politiques, auteur de nombreux ouvrages, dont une biographie monumentale de Mussolini, publiée chez Fayard. Et vous nous offrez aujourd'hui une nouvelle biographie, cette fois consacrée à Napoléon III et publiée aux éditions Perrin. Alors, vous le précisez dès les premières lignes de vos chapitres consacrés à la politique extérieure, ce n'est qu'un an et demi après la fameuse déclaration « l'Empire, c'est la paix » que Napoléon III déclare la guerre à la Russie. Et pourtant, cette guerre, il ne l'a pas voulu. Alors, avant de voir justement cette guerre de Crimée, il me semble bon de rappeler quels furent les principes de politique étrangère de l'empereur des Français.
La première chose qu'il faut souligner et retenir, c'est que Napoléon III, enfin Louis-Napoléon Bonaparte, tant qu'il a été Louis-Napoléon Bonaparte, qui consacre un certain nombre d'ouvrages, Louis-Napoléon Bonaparte était très prolixe en matière d'écrit, a peu écrit sur la politique étrangère. La plupart des écrits de Napoléon III en exil, que ce soit en Suisse, en Angleterre, ou lorsqu'il était en prison, au Fort de Ham, porte sur la politique intérieure ou sur la politique économique. C'est des idées napoléoniennes, c'est l'extinction du paupérisme. Et des idées napoléoniennes, c'est surtout un ouvrage consacré à la politique intérieure. Ce que doit être le régime, l'idéal du régime pour Napoléon III. Dans le fond, la politique étrangère, il en parle peu. Et pendant la période qui précède, non son arrivée à la présidence de la République, mais qui précède la déclaration de l'Empire, la transformation de la République consulaire en Empire, il ne parle pas non plus beaucoup de politique étrangère. C'est une fois devenu empereur que, je dirais par la nécessité un peu des choses, Napoléon III va s'intéresser et va entrer véritablement en politique extérieure. Alors, les principes. Le premier principe, vous l'avez rappelé il y a un instant, la paix. L'Empire, c'est la paix. Et il va faire la guerre. Il va en faire trois. Il va en faire beaucoup moins que l'oncle, beaucoup moins que Napoléon Ier. Mais enfin, assez vite quand même, on passe de ce projet qui était un projet pacifique et qui restera d'ailleurs toujours en filigrane. Napoléon III dira toujours, moi je ne veux pas faire la guerre. Ce qu'il faut, c'est trouver maintenant d'autres solutions pour régler les conflits internationaux. Et probablement est-ce là qu'il est le plus prophétique, puisqu'il prévoit des congrès qui devraient avoir lieu tous les cinq ans, réunir les grandes puissances, comme d'ailleurs il le fera avec le congrès de Paris en 1856, réunir les grandes puissances, essayer de régler les problèmes d'une manière pacifique. Donc, la première idée, c'est l'Empire, c'est la paix, mais très vite, celle qui va s'imposer, c'est l'autre. C'est-à-dire, l'Empire, c'est aussi la volonté de rayer ce qui s'est passé, de faire disparaître ce qui s'est passé en 1815. Et par contre, comme 1815, ça a été non pas l'Europe des nations, mais l'Europe des souverains, c'est la Sainte Alliance, c'est la chape de plomb aussi, il faut bien dire, qui tombe sur l'Europe, puisque aucun compte n'est tenu de la volonté d'indépendance des peuples, que ce soit les peuples balkaniques, que ce soit les Italiens. Donc la deuxième idée, c'est qu'il faut rompre avec ces traités de 1815 et il faut De même que la grande idée en politique intérieure, c'est la souveraineté nationale, c'est la souveraineté du peuple. Et même cette idée de souveraineté du peuple, c'est déjà une idée que Napoléon Ier avait mise dans le mémorial, c'est-à-dire enfin, dans les derniers écrits de Napoléon Ier. C'est l'idée qu'il faut apporter la liberté au peuple et qu'il faut que cette souveraineté soit exercée par les peuples. Donc il faut libérer autant que possible l'Europe, si possible par des moyens pacifiques, sinon en les aidant peut-être de manière militaire. Donc, ce sont les deux grandes idées. Elles sont simples, hein. Il s'agit en somme de rompre avec ce qui s'est fait en 1815 et renouer avec la politique impériale. Mais il le dit très clairement. C'est quelqu'un qui est très lucide. Il sait très bien que la France de 1850 n'est pas la France de 1800. Qu'elle n'en a ni la démographie, ni la force militaire, ni les moyens financiers. Et par conséquent, il ne s'agit pas de refaire ce qu'a fait Napoléon Ier. Il ne s'agit pas de reconquérir l'empire napoléonien, d'y installer on ne sait quel système familial. D'abord, il serait bien en peine de le faire, parce que la famille s'est largement égayée et ne lui est pas très favorable. Il s'agit d'une politique beaucoup plus modeste, aider les peuples à sortir des traités de 1815. Et puis alors, en filigrane, c'est une idée qui est beaucoup moins manifestée au début du règne. Il y a quand même cette idée, il en parle peu, mais il essaiera de le faire à la fin, qu'il faut rendre à la France ses frontières dites frontières naturelles. Et ça sera tout le problème, d'ailleurs, avec la Belgique, et tout le problème avec la rive gauche du Rhin. Peut-on à la fois proclamer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, dire qu'on va apporter la liberté aux peuples, et se dire, bah, dans le fond, il faudrait refaire les frontières naturelles et aller jusqu'au Rhin. Là, il y a une contradiction. Vous voyez, ce sont en somme les trois grands thèmes de la politique, du projet de politique étrangère de Napoléon III.
Est-ce qu'en 1848, quand les Français votent, ils pensent à revoir justement cette Europe du Congrès de Vienne? Ou est-ce un souci qui est moindre et voit-il au contraire les écrits de Napoléon en matière de politique intérieure?
Alors, les Français de 1848, le vote français de 1848 se fait peu sur la politique étrangère. Il y a une idée peu formulée, il y a une idée qui est sous-jacente, ou il y a un sentiment plus exactement qui est sous-jacent, c'est Napoléon Ier, c'était la grandeur. C'était une France respectée, c'était la grandeur. Donc l'idée, c'est que, bon, dans le fond, en votant pour Napoléon III, on retrouve un petit peu de cette grandeur. Est-ce que consciemment, ça veut dire... Vous savez, les Français sont quand même... Si Napoléon dit « l'Empire, c'est la paix », il sait très bien pourquoi il le dit. Donc en 1848, au moment des élections présidentielles, bon, il a parfaitement conscience que ce que souhaitent les Français, c'est le maintien de la paix. C'est l'ordre intérieur. Dans le fond, le vote de 1848... Et ce qui va se passer en 48-49, c'est une France quand même qui souhaite la paix et qui souhaite l'ordre intérieur. La conquête impériale, non. La conquête militaire, non. Il y a quand même une chose qu'il faut noter d'entrée de jeu. Si Napoléon III dit « l'Empire, c'est la paix », ou dira « 52, l'Empire, c'est la paix », c'est parce qu'il est tout sauf un militaire. En tout cas, tout sauf un soldat. Moi, je me souviens, mon maître Girard, qui a écrit sur Napoléon III, vous disait, c'était au moment de la guerre d'Algérie, j'étais étudiant au moment de la guerre d'Algérie, parlant de Louis-Philippe, enfin de Philippe d'Orléans, et qui donc dans la proclamation est le roi soldat, j'ai combattu à Jemmapes, etc. Non, c'était pas un soldat, c'était tout au plus un militaire. C'est un peu pareil pour Napoléon III. C'est tout sauf un guerrier. C'est tout sauf un stratège, c'est tout sauf un guerrier. Ah bien sûr, il connaît un peu la chose militaire, il a été capitaine d'artillerie dans l'armée suisse, il a écrit un manuel d'artillerie pour l'armée suisse, un manuel d'artillerie tout court, mais c'est pas un soldat. D'ailleurs, il va le montrer, pas pendant la guerre de Crimée, puisqu'il n'est pas à la tête de l'armée française pendant la guerre de Crimée, mais pendant la guerre d'Italie, il va le montrer, car dès les premières batailles de la guerre d'Italie, il recule. Devant les morts, et notamment, on en parlera peut-être tout à l'heure, devant les 40 000 morts de Solferino.
Peut-on dire que Napoléon III continue la révolution? Car vous utilisez un terme qui est fort dans les principes inscrits dans votre livre, vous parlez de messianisme révolutionnaire.
Alors absolument, et de même que Napoléon Ier le dit, dans ce qu'il dit à Las Cases, il poursuit, il renforce, il établit, il crée les bases qui sont nées de la Révolution française. Il se rattache, il se réclame de la Révolution française. Et c'est via bien des égards ça qui fera d'ailleurs son succès. Hein. Un moment comme 1848, comme le grand souffle révolutionnaire. Mais c'est en même temps, 1848, ça va être très... Et au moment de l'élection, c'est déjà derrière, ça va être en même temps une république qui n'est une république sans les républicains. C'est une république avec essentiellement une chambre monarchiste. Et c'est une république qui a fait tirer sur les ouvriers en juin 1848. Lui, il estime qu'il est dans la continuité de la Révolution. Alors bien sûr, de la Révolution dans sa phase surtout autoritaire et consulaire. Mais il se place incontestablement dans le droit fil de la Révolution française.
Est-ce que ce n'est pas cet autoritarisme, au fond, qui lui fait dire à Metternich un jour, c'est la révolution qui, en s'interposant, gâte tout ? On peut se dire qu'il y a une contradiction, non ?
Là, le mot révolution n'est pas employé dans le même sens. Il est employé dans le sens de l'émeute, de la destruction d'un régime qui serait un régime solide par la populace. Là, il est contre, bien sûr. Cette révolution-là, il ne peut être que contre. C'est une vue beaucoup plus large chez la Révolution en tant que grand phénomène de transformation de la société française entre 1789 et 1815. Il y a deux acceptions du terme révolution. Il y a deux images qu'il a de la Révolution. La Révolution française qui enfante un nouveau monde, qui enfante une nouvelle société, qui met en place, qui enfante la souveraineté populaire. Oui. La populace dans la rue qui peut aussi bien renverser un régime qui ne mérite pas à ses yeux d'être renversé, cette révolution-là, non.
Napoléon, vous le dites, tout au long de son règne, va adopter des revirements spectaculaires. Était-il tiraillé d'une part entre ses principes et des principes, au fond, que l'on appelle traditionnellement les principes de la réelle politique ? Est-ce qu'il y a une opposition entre les deux ?
Il y a forcément une opposition, Les idées, vous savez, les interventions politiques militaires de Napoléon III jusqu'à la fin, elles sont à la fois fondées sur les principes et tributaires de la réelle politique. Il veut jamais faire l'unité italienne. Donc, combattre en Italie, c'est à la fois aider le Piémont à surtout chasser les Autrichiens, et ça c'est conforme aux idées de libération, mais c'est en même temps créer dans la proximité immédiate de la France un État satellite, un État ami. Donc à la fois l'intérêt politique se marie avec les grandes idées de libération des peuples. Constamment, si vous voulez, il y a le fait qu'il est en face de lui à la fois le programme qui est un programme entre guillemets révolutionnaire, en tout cas contestataire de l'ordre établi, et la nécessité de la puissance de la France, de la prospérité de la France, c'est-à-dire la réelle politique.
Est-ce qu'il n'est pas, j'allais dire, si vous me permettez l'expression, un peu ballotté au sein de son entourage entre d'une part des gens qui voudraient une politique beaucoup plus révolutionnaire et d'autres beaucoup plus réactionnaires ? Quelle est en fait l'image que l'on peut se faire du personnel diplomatique à cette époque-là ? Est-ce qu'il est tiraillé aussi ?
Alors, l'idée qu'il serait une marionnette tantôt entre le parti de la guerre et le parti de la paix, tantôt entre les orléanistes, bon chic, bon genre, modérés et les bonapartistes de gauche ou les républicains, incontestablement, non. Mais en fonction de ses objectifs, il va jouer tantôt les uns, tantôt les autres. Il est clair qu'il doit aussi tenir compte, puisqu'on parlait de réal politique, d'une contrainte qui est fondamentale, qui sont ses appuis politiques, qui sont les gens qui l'ont porté au pouvoir, qui sont la nécessité qu'il a de trouver des alliances, tantôt à gauche et tantôt à droite. Alors il est clair que tous les débuts du Second Empire, il est obligé, pour mettre en place le régime, pour affirmer le régime, de s'appuyer sur la droite modérée, sur les orléanistes, et qu'à partir du moment où il s'engage dans l'action de politique étrangère, et en particulier, c'est pas tout à fait vrai avec la Crimée, mais ça va l'être avec l'Italie, dans une politique qui va l'amener à entrer en conflit avec le pape, et par conséquent entrer en conflit avec les catholiques, là il est incontestablement obligé de jouer sur les deux tableaux. Donc sans passer de l'un à l'autre, être ballotté de l'un à l'autre, il doit incontestablement tenir compte de ses appuis politiques. Alors, ses appuis, le régime, au niveau du soutien sociologique, c'est à la fois, pour prendre ça au niveau de l'électorat, il y a un électorat de droite, il y a un électorat modéré, il y a un électorat monarchiste, orléaniste, et puis il y a un électorat populaire. eh bien, il est clair qu'il doit jouer entre ces deux électorats. Et qu'à partir du moment où il perd le soutien de l'un, il est bien obligé d'essayer de regagner celui de l'autre.
En tous les cas, ce n'est absolument pas le naïf que l'on a voulu montrer, j'allais dire, depuis sa 1870.
Tout naïf et tous ceux qui l'ont approché de près, tous les témoignages le disent, c'est comme le mythe d'un Napoléon III qui aurait été promené par l'impératrice, une impératrice qui aurait joué le parti de l'impératrice jouant un petit peu à la fin. C'est un mythe à l'état pur. Il sait très bien ce qu'il fait. Il reste maître du jeu. Quand l'équipe en place ne lui plaît pas, quand elle correspond plus aux besoins de sa politique, il la change. Mais il n'est pas victime des coteries.
Je reçois Pierre Milza et nous évoquons la politique étrangère, la politique extérieure de Napoléon III. Pierre Milza qui vient de publier une biographie consacrée à l'empereur des Français aux éditions Perrin. Nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, après une première pause. Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Pierre Milza, auteur d'une biographie consacrée à Napoléon III, publiée aux éditions Perrin. Et nous évoquons la guerre de Crimée et venons-en, justement, après avoir évoqué les principes de politique étrangère de l'empereur des Français, venons-en à cette fameuse guerre de Crimée. Quelles en sont ses origines ?
Alors d'abord, il faut voir que ça sera l'un des reproches avec le Mexique de la postérité de la légende noire de Napoléon III. Qu'est-ce qu'il est allé faire en Crimée ? Alors qu'on dit l'Empire c'est la paix, voilà que 2 ans après, il va faire la guerre en Crimée. Pourquoi en Crimée ? Pourquoi contre la Russie ? Après tout, le tsar n'avait pas été très gentil en disant que il le saluait comme son cher ami et non pas comme son très cher frère. Connaissait la réplique, plus ou moins apocryphe, on choisit ses amis et pas ses parents. Qu'est-ce qu'il est allé faire en Crimée ? Alors, il y a le prétexte. Le prétexte, c'est l'affaire des lieux saints. La France est traditionnellement, d'abord une politique orientale, depuis François Ier, puis ensuite depuis Louis XIV. Il y a une présence culturelle dans les pays du Proche-Orient. Et il y a un magistère français, il y a une protection des Français, des moines français, des ecclésiastiques français sur les lieux saints. Et puis, dans une perspective de conquête, au moins de débouchés maritimes, la Russie se lance, au début du XIXe siècle, dans une politique de présence également sur le lieu saint, en soutenant les moines orthodoxes. Donc, il y a une montée de cette présence orthodoxe, il y a une gêne à l'égard des ecclésiastiques français, et tout ça débouche sur une crise dont Napoléon III dit lui-même à un certain moment qu'il n'y comprend pas grand-chose, que de toute façon ça ne l'intéresse pas beaucoup, il ne se voit franchement pas faire la guerre pour les lieux saints. Bien entendu, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, ce sont les détroits, c'est la volonté des Russes de s'imposer dans les Balkans, d'avoir une politique d'expansion balkanique et d'essayer d'obtenir la liberté, la possibilité de que leur flotte passe en Méditerranée et par conséquent de dominer les Balkans, c'est-à-dire de dominer Constantinople. Or, on sait qu'à cette époque, Constantinople, c'est-à-dire l'Empire ottoman, qui a atteint toute son ampleur au XVIIe siècle, hein, les Turcs sont arrivés jusque sous les murs de Vienne, est en permanent recul.
C'est l'homme malade.
Et bien sûr, c'est la fameuse expression, c'est l'homme malade de l'Europe, avec grandes difficultés intérieures, avec un régime qui est en pleine décadence, et avec une puissance militaire qui est loin d'être celle qu'elle était, de ce qu'elle était au XVIIe siècle. Et la Russie, incontestablement, va profiter de cette situation pour déboucher sur les mers libres et pour s'emparer ou du moins établir son contrôle sur les détroits. Or, face à la Russie, bien sûr, il y a l'Angleterre. Il y a l'Angleterre, c'est pas encore le moment qui va être le point culminant de la présence anglaise dans les Indes, mais il y a déjà cette idée pour l'Angleterre qu'il n'est pas question de laisser la Russie libre en Méditerranée orientale, parce que ça serait la route des Indes, qui est pendant tout le XIXe siècle, je dirais jusqu'à Suez en 1956, le cœur même de la politique étrangère de la Grande-Bretagne. C'est la défense de la route vers l'Orient et de la route des Indes. Or, ceci se situe à un moment où Napoléon III, qui dit qu'après tout, faire l'Empire, c'est la paix, mais qu'on va quand même peut-être bien obligé quand même d'intervenir sur la scène internationale, parce que, dans le fond, les puissances ont toléré son arrivée au pouvoir, mais voient assez mal son programme de libération des peuples, et par conséquent, il faut un allié. Qu'est-ce que la France peut trouver comme allié en 1854, 1853-54, alors que son projet est un projet de donner un grand coup de pied dans la fourmilière de 1804. Il n'y en a qu'un possible, c'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre, parce que l'Angleterre est le seul pays, le seul régime libéral. Il est clair que la Sainte Alliance, c'est l'alliance des autocrates et que la France va avoir besoin d'alliance anglaise. Donc, tout naturellement, c'est ça qui va compter. La France va se rapprocher de l'Angleterre. Donc, l'intervention dans les Balkans, l'envoi d'abord de la flotte en Méditerranée, c'est essentiellement dans l'idée qu'il faut s'allier à l'Angleterre, et tout naturellement, il va y avoir une alliance franco-anglaise contre la Russie, au moment où la Russie va envahir les principautés urbaines. Et là, bon, la France et l'Angleterre vont être amenées à envoyer un ultimatum au tsar, et devant le refus du tsar de se retirer de ses principautés, Moldavie, Valachie, eh bien c'est la guerre qui va éclater, et la guerre, alors que, où faire la guerre? Où faire la guerre? Alors, le projet de traverser toute l'Europe avec une grande armée, enfin, moi j'ai recommencé le Premier Empire, est évidemment impossible, donc on va songer d'abord à débarquer dans les Balkans, et puis à partir de là, traverser les Balkans, puis la Crimée, et puis peut-être remonter vers le nord, ça semble également irréaliste. Donc on fait un choix minimaliste, c'est d'aller toucher la Russie là où elle est sensible, c'est-à-dire en mer Noire, où elle est sensible notamment sur le plan maritime, d'où l'idée d'envoyer un corps expéditionnaire franco-britannique, plus franco d'ailleurs que britannique, hein, il y a une égalité entre les deux contingents, et on va intervenir, on débarque, et on va aller mettre le siège devant le grand port de Crimée qu'est Sébastopol.
Peut-être avant d'aborder ce fameux siège de Sébastopol, pour revenir sur les origines, il y a un personnage qui a donné un mythe, c'est Stratford Redcliffe, qui était à Constantinople. quel rôle joue-t-il? On a souvent dit, l'historiographie a souvent dit que c'était lui qui avait en quelque sorte poussé le Turc à faire la guerre et donc aussi à emmener la France contre la Russie.
Oui, il arrive à Constantinople, il se comporte en monarque oriental, il a une suite importante. Effectivement, il va essayer de dicter au sultan sa politique, c'est-à-dire avoir une politique d'opposition aux ambitions russes. C'est incontestable.
Et peut-être sur l'amitié aussi franco-anglaise, ça ressort beaucoup de votre livre. Il y a un lien très fort entre Napoléon III et l'Angleterre.
Il y a un lien considérable. D'abord, il y a un lien... il aime bien l'Angleterre, il aime bien les institutions anglaises. Son rêve, c'est l'autorité, mais provisoirement d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Hein, l'Empire se termine par un régime quasi-parlementaire, pour un jour instaurer en France des institutions qui seraient des institutions anglaises. Mais il y a surtout un lien affectif qui est lié à l'exil. Il se réfugie à plusieurs reprises en Angleterre, il se réfugie en Suisse, mais il y a un moment où les Suisses vont être obligés non pas de le chasser, puisqu'à un moment donné, ils pensent même faire la guerre devant les menaces françaises qui exigent du gouvernement helvétique de la Confédération de non pas de livrer, enfin de chasser Napoléon. Non, je préfère repartir en Angleterre. Alors, il y a un lien très fort, il adore l'Angleterre, il vit à plusieurs reprises en Angleterre, il y vit de manière d'ailleurs grandiose, il se comporte en véritable lord, il fréquente la haute société anglaise, les clubs, les jeunes artistes aussi de variété. Il adore ce pays et dès qu'il va être au pouvoir, il marque une idée, c'est une alliance avec l'Angleterre. Et les premiers contacts qu'il aura avec les monarques anglais, enfin avec la reine Victoria, sont également excellents. Donc il y aura toujours chez lui cette permanence qui l'amènera d'ailleurs en 1860 au traité de commerce avec l'Angleterre.
Dans cette affaire de la guerre de Crimée, Napoléon, au début, je le disais au début de mon propos, il ne la souhaite pas cette guerre, il tente un règlement pacifique.
Tout à fait.
Quel est l'élément qui le fait basculer?
L'élément qui fait basculer, c'est que la guerre devient inévitable, parce que les Britanniques s'engagent et qu'il faut y aller. Mais c'est vrai qu'au début, ils tentent d'abord la conciliation. Ils se rendent bien compte que cette guerre très loin, dans laquelle la France jouera d'ailleurs le rôle majeur, hein, c'est elle l'armée de terre. Hein, les Anglais envoient un corps expéditionnaire, mais le gros de l'armée de terre, c'est l'armée française. Donc c'est la France qui paiera le maximum, et il n'est pas effectivement très, très, très chaud pour s'engager là-dedans. Finalement, l'alliance anglaise y amène.
Il y a un temps incroyable entre le moment où cette guerre est déclarée et le moment où il y a les premiers affrontements. C'est dû à une question géographique.
On n'est pas prêt. Hein.
Militairement, nous ne sommes pas prêts.
On n'est pas prêt, on ne sera jamais prêt. Malheureusement, c'est le grand problème de la politique étrangère, dont on parlait très brièvement des moyens tout à l'heure, c'est que l'armée française, d'abord un souci permanent, moins au début qu'à la fin, mais quand même le problème des effectifs. Donc il va falloir d'abord réunir les effectifs, on a une armée qu'il va falloir entraîner, et qui est une armée qui est habituée aux guerres coloniales, hein, et non pas aux grands affrontements en race campagne. Or la campagne de Crimée, c'est quand même des affrontements en race campagne, c'est pas une guerre de guérilla. Alors il faut un certain temps, ensuite il faut acheminer les troupes, et d'abord les Balkans, et puis je pense que Napoléon III se presse pas, parce qu'il pense toujours qu'il va pouvoir retenir le tsar, et que finalement on va arriver à un compromis.
Les choses traînent et vous écrivez qu'un jour, il pense même y aller lui-même en Crimée.
Et il est retenu par Eugénie à ce moment-là, hein, ce qui ne sera pas le cas en 1870. Bon, c'est la première guerre de l'Empire. Il ne peut pas imaginer qu'une guerre se fasse sans lui. Il est quand même l'héritier de Napoléon Ier, donc il songe à un moment effectivement à se rendre en Crimée. Finalement, il y a des pressions fortes et notamment, n'oublions pas que nous sommes avant la naissance du prince impérial. Il n'y a pas de relais, ou le relais, ça risque d'être plomb-plomb, ça risque d'être le prince Napoléon. Donc, les gens de son entourage lui disent, attendez, attention, si vous y restiez, qu'est-ce qu'il arriverait? L'Empire n'est pas encore suffisamment solide, n'est pas encore suffisamment établi. Alors, il renonce. Il renonce alors qu'il prendra la tête, au contraire, de l'armée pour la campagne d'Italie.
Alors, le siège de Sébastopol en lui-même va durer énormément de temps, plus de 332 jours. Qu'est-ce qu'on peut dire sur
On peut dire que d'abord, il y a eu des engagements sanglants, mais la France est intervenue, bon, on en voit plus de 100 000 hommes quand même. Et les pertes seront considérables, mais ce n'est pas seulement les pertes des batailles préliminaires ou des tentatives d'assaut qui seront données. Les pertes sont dues à l'hiver, qui a beau être la Crimée, entre guillemets, la côte d'Azur de la Russie, c'est un climat très rude, suivi d'une débâcle de printemps, enfin très très malsaine. Le choléra, la dysenterie s'emparent de l'armée. Il y aura beaucoup plus de morts du fait des épidémies que du fait des combats, même si les combats sont meurtriers. N'oublions pas que nous entrons dans un type de guerre, à ce moment-là, la guerre de Crimée, puis la guerre d'Italie, et bien sûr la guerre de 70 et la guerre de Sécession, avec des guerres beaucoup plus meurtrières que les guerres du XVIIIe siècle, et même que les guerres de la Révolution et de l'Empire. Donc les combats sont meurtriers, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de blessés, mais ce qui fait surtout les pertes, ce sont les épidémies qui s'emparent de l'armée.
Je reçois Pierre Milza et nous évoquons la guerre de Crimée. Nous nous retrouvons dans un instant.
Vous écoutez Canal Académie.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques. Les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année, Radio Canal Académie leur donne la parole. Connectez-vous et écoutez.
Un jour dans l'histoire reçoit Pierre Milza et nous évoquons le personnage extraordinaire, controversé encore aujourd'hui, qui est Napoléon III et sa politique étrangère. Alors, nous en sommes au siège de Sébastopol. Les Russes évacuent la ville. Nous arrivons à prendre la ville et au fond, politiquement, la Russie se dit qu'elle doit mettre fin à la guerre. Et j'allais dire, entre temps, il y a eu un événement, c'est que Nicolas Ier meurt et il laisse la place à un autre tsar.
Oui, qui d'ailleurs, mais c'était déjà le cas de Nicolas Ier pendant le siège de Sébastopol, prend conscience immédiatement du fait que si les Russes ont été battus sur leur territoire par une armée comme un corps expéditionnaire, c'est que la Russie est terriblement retardée. Ça va jouer un rôle fondamental dans l'industrialisation de la Russie. Les chemins de fer sont défaillants. La mobilisation russe a été catastrophique. Donc, l'idée, c'est qu'il faut une période de recueillement. De recueillement international pour faire une Russie moderne, ce qui explique que après c'est dans le fond c'est pas la fin du monde, la prise de Sébastopol. Il est sage de faire la paix et on va faire la paix.
Le 4 février donc 1856, il y a les préliminaires de paix. Et à la fin du mois débute ce grand congrès de Paris. C'est à cette époque qu'on a l'habitude de dire Napoléon III est l'arbitre de l'Europe. Était-il réellement cet arbitre ?
À cette date, il est l'arbitre de l'Europe et il est reconnu comme l'arbitre de l'Europe et il inaugure avec le congrès de Paris, dans le fond, ce qu'il aurait souhaité devenir l'ordinaire des relations internationales, c'est-à-dire des congrès internationaux. On aura ensuite un certain nombre, il y aura celui de 1878, également provoqué par la question d'Orient. Donc effectivement, on peut considérer que pendant une brève période de temps, enfin disons de 1856 à pendant une dizaine d'années, à bien des égards, il apparaît comme l'arbitre de l'Europe. Ce qui ne veut pas dire qu'il en a les moyens. C'est sa diplomatie qui est une diplomatie de l'arbitrage, mais c'est pas la puissance de la France, c'est pas le Second Empire n'est pas le Premier Empire, c'est pas la puissance militaire de la France qui impose sa politique, c'est la diplomatie.
Alors il a réussi à rompre le front des puissances absolutistes et il y a ce principe des nationalités qui peu à peu s'impose. Du congrès de Paris sort la Roumanie au fond.
Sort la Roumanie et sort la politique qui va être celle de Cavour et celle de Victor Emmanuel II, c'est-à-dire les Italiens, n'oublions pas que les Italiens ont joué leur carte pendant la guerre de Crimée en envoyant un corps expéditionnaire, pas de grande dimension, mais qui a vaillamment combattu, les Piémontais sont de rudes combattants, qui a vaillamment combattu et du coup... Les Italiens sont là. Alors, ils n'assistent pas aux grandes séances du Congrès. Ils seront dans les séances subsidiaire du Congrès, mais c'est quand même à cette occasion que Cavour va poser, que les Italiens vont poser la question de, appuyé par Napoléon III et surtout appuyé par les Britanniques, la question de la libération de la Lombardie, enfin la question de, non pas de l'unité italienne, mais de la libération des régions d'Italie dominées par les Autrichiens.
Alors peut-être, avant de venir à l'Italie, quel est le nouvel équilibre européen selon Napoléon III ? Il y a une chose qui m'a vraiment surpris, c'est le fait qu'il se tourne vers la Russie. Après lui avoir fait la guerre, il a une sorte de lien d'amitié désormais.
Alors, il y a un lien d'amitié qui vient du fait qu'il vient de là encore de la realpolitik, parce qu'il subodore que l'étape suivante, ça va être la guerre contre l'Autriche. Et à partir du moment où on est en guerre contre l'Autriche, il faut trouver des alliés continentaux. L'Angleterre ne suffit pas. Donc, les alliés continentaux, ou c'est la Prusse, ou c'est l'Autriche. La Prusse ne lui est pas favorable. Par conséquent, tout naturellement, il va s'orienter vers la Russie, laquelle Russie, ayant besoin donc de d'un certain nombre d'années de paix, voit d'un assez bon œil, en fin de compte, un rapprochement avec l'Empire français.
Nous n'avons pas évoqué l'Autriche dans tout cela. Que se passe-t-il ? C'est-à-dire que peut-être une des constantes de la politique étrangère de Napoléon III est de refuser systématiquement l'alliance autrichienne.
Oui, et d'ailleurs, ça va lui coûter très cher. Et l'Autriche, c'est le symbole de 1815. L'Autriche, c'est Metternich, c'est l'Europe de Metternich. On ne parle pas d'une Europe prussienne, on parle de l'Europe de Metternich. L'Autriche a été le gendarme de l'Europe, c'est elle qui a empêché les peuples de se libérer. Donc, un rapprochement avec l'Autriche, qui aurait paru naturel à bien des égards, et notamment catholique français, quand même le grand pays catholique, eh bien, il ne se produira pas. Et au moment où il aurait été particulièrement utile, c'est-à-dire après Sadova, là, il y avait une possibilité de rapprochement avec l'Autriche contre la Prusse. Il va laisser passer. Il croit qu'au dernier moment, en fin de compte, François-Joseph viendra au secours de la France, qu'il ne fera pas. Et là, il laisse passer une occasion.
Alors, venons-en à l'Italie. Quels sont les liens de Napoléon III avec l'Italie ?
Alors là, ils sont très profonds parce que il y a d'abord, c'est un lien des Napoléonides avec l'Italie. En 1815, ils fichent tous le camp en Italie. Enfin, Joseph part aux États-Unis et Louis-Napoléon et sa mère vont en Autriche, mais vont en Suisse. Mais tous les autres, c'est l'Italie. Ou très rapidement, les années 1826-27, il va passer la moitié de l'année, puisque Hortense, la reine de Hollande, sa mère, donc, vit la moitié de l'année en Suisse, à Arenenberg, et la moitié de l'année à Rome. Donc la jeunesse de ce personnage, l'entrée, l'apprentissage de la ville, disons, se fait à bien des égards. Vous savez, jusqu'à l'âge de 15 ans, c'était un petit paysan du canton de Turgovie, Louis-Napoléon. Il colle avec les collégiens du CRU et c'était un peu un petit paysan de Turgovie. Et puis, tout d'un coup, il se trouve projeté dans l'univers romain. Bon, écoute, l'extraordinaire transformation dans sa vie. Et il est conquis, il fréquente les jeunes carbonari, enfin la jeunesse dorée, disons, romaine, mais libérale. Dorée, mais libérale. Et sa jeunesse, son adolescence se termine là. Donc il y a ce premier contact. Ensuite, bien sûr, il y a la révolte des Romagnes en 1831, où avec son frère Napoléon Louis, il s'engage dans l'armée révolutionnaire. Alors on l'écarte assez vite parce que il y a la menace autrichienne. Mais enfin quand même, il combat, son frère meurt pendant cette guerre contre l'Autriche. Donc c'est pas rien. Sa mère vient le sauver. Il y a une espèce de fuite rocambolesque à travers l'Italie du Nord. Tout ça le marque profondément et ça va être un élément. Puis bon, il y a toute la politique italienne de Napoléon Ier. Il y a les victoires des guerres d'Italie, la gloire, la première gloire et du consulat et de l'Empire. Tout ça fait qu'il aime l'Italie et incontestablement, il pense assez vite qu'il faudra un jour ou l'autre aller au secours des Italiens. Mais assez vite, en pensée, les actes ne viennent pas aussi rapidement. Il faudra quand même attendre l'attentat d'Orsini en 1858 pour le voir se décider. Et pourtant, Cavour a dépêché l'ambassadeur le plus extraordinaire qu'on puisse imaginer en la personne de la comtesse de Castiglione avec une mission précise. « Ma chère cousine, lui écrit-il, vous devez par tous les moyens, je dis bien par tous les moyens, convaincre l'empereur de la nécessité de voler au secours du Piémont. » Il écrit en gros ça. Et la comtesse de Castiglione a effectivement utilisé tous les moyens. ça suffira pas, parce que la liaison date de 1856 et il faut attendre 1859 quand même pour le voir intervenir.
Alors, ce qui est d'étonnant, pendant le congrès de Paris, vous en parlez, Cavour, lui, est moins décidé à réaliser l'unité italienne, au fond, que d'accroître, il veut accroître l'État piémontais. Est-ce qu'au fond, il n'est pas comme Napoléon III qui, lui, souhaitait une division tripartite de l'Italie ?
Mais tout à fait. Il n'est pas du tout dans les projets et du souverain piémontais et de leur principal ministre, de même qu'il ne sera pas dans le projet bismarckien d'unité allemande. Si eux, c'est agrandir la Prusse et renforcer l'État Hohenzollern. Là, c'est pareil. Ce sont des hommes d'ancien régime. Victor Emmanuel II, c'est un souverain d'ancien régime. Il s'agit donc d'agrandir le Piémont. Et agrandir le Piémont, ça veut dire conquérir la Lombardie et la Vénétie. À bien des égards, il y a une instrumentalisation du sentiment patriotique des Italiens qui sont sous la domination autrichienne.
Est-ce que Napoléon III, dès lors, enclenche-t-il une machine qu'il ne peut plus contrôler ?
Oui et non. D'abord, il faut attendre 1858. Ce qui va vraiment finir de le convaincre, c'est l'attentat d'Orsini. Bon, cette machine infernale rue Le Pelletier, au moment où le couple impérial va à l'opéra. Et la confession d'Orsini, le fait que... Pietri, le préfet de police, va voir Orsini en prison et finalement explique que l'empereur n'est pas du tout un ennemi de l'intervention en Italie et du coup Orsini écrit à l'empereur qui aurait bien voulu le gracier d'ailleurs, il ne peut pas dans son entourage, il y a eu pratiquement régicide, tentative de régicide, c'est là qu'il va se décider, mais avec toujours des allers-retours. Alors à partir du moment où il s'allie où il y a l'entrevue de Plombières et où il devient l'allié du Piémont, alors là c'est vrai que au moindre prétexte, et c'est les Piémontais qui vont trouver le prétexte, il va être obligé de s'engager dans l'affaire.
Alors justement, il provoque l'Autriche lors des vœux au cœur diplomatique, il renforce les liens de la France, vous venez de le dire, et du Piémont, il fait même publier une brochure intitulée Napoléon III et d'Italie, et pourtant vous écrivez qu'il est effrayé par la mise en route du mécanisme qu'il a déclenché.
Tout à fait. Quand il se rend compte que finalement, au bout de ça, il y a la guerre.
Il ralentit sa marche,
mais il est trop tard. Enfin, il a pris des engagements, il est trop tard. Donc, c'est un homme de parole, en plus.
Et au fond, c'est l'Autriche qui lui offre l'occasion rêvée.
Bien sûr.
Voilà, que se passe-t-il, donc ?
Eh bien, il y a une mobilisation italienne, il y a un ultimatum à la France, et... La France réagit en envoyant encore un expéditionnaire.
Quelles sont les grandes étapes de cette campagne en Italie ?
Alors deux armées, hein, une armée qui traditionnellement, qui reprenant la geste bonapartiste, la geste de Napoléon Ier, va franchir les Alpes. Là, on n'est pas en hiver, on est au début de l'été, enfin on est à la fin du printemps. Et puis une armée qui débarque à Gênes sous le commandement de Napoléon III, les deux ayant pour objectif de faire leur jonction, d'abord avec les Piémontais, puis de faire leur jonction en Lombardie. Et là, le commandant-chef autrichien, Joulet, va se laisser prendre de vitesse. Il est clair que s'il avait décidé d'attaquer d'abord les Piémontais, il battait les Piémontais, parce que le rapport des forces, des effectifs était considérablement en faveur des Autrichiens. Il ne le fait pas, la jonction aura lieu, et il y aura donc trois batailles, une première bataille à Palestro, puis il y a surtout deux grandes batailles à peu d'intervalle, mai-juin 1859, la bataille de Magenta, qui est très incertaine, au dernier moment, l'intervention des renforts français qui vont sauver l'armée. Et puis il y a cette terrible bataille de Solferino qui est incertaine aussi et qui est une véritable boucherie, puisqu'on relevera 40 000 morts, 23 000 du côté français, 17 000 du côté autrichien, sans compter les milliers et les milliers de blessés. Et là, on mesure qui est Napoléon III. Quelle est la véritable personnalité militaire de Napoléon III, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que face, il y a plusieurs raisons, il n'arrête pas la guerre avec l'Autriche uniquement parce qu'il est mort de Solferino, ça a fortement pesé. C'est dès la bataille de Palestro, Bourbaki disait, ne laissons pas l'empereur participer aux batailles, d'abord parce qu'on risque de le perdre, et ensuite parce que il est fortement ému par la vision des morts sur le champ de bataille, et ça va à l'encontre finalement de nos objectifs. Donc au lendemain de cette bataille de Solferino, il rencontre François-Joseph. Alors il y a plusieurs raisons, il y a les morts de Solferino, mais il y a surtout le fait que les Prussiens se réveillent à ce moment-là, mobilisent plusieurs corps d'armée sur le Rhin, et menace en quelque sorte la France, et l'Angleterre décide de tout à fait de rester neutre, et menace la France d'intervenir si on n'arrête pas la guerre. Et puis il y a les catholiques français qui s'agitent très très fortement, enfin du moins qui se mobilisent et qui se manifestent très fortement, et faut reculer devant tout ça. Donc on rencontre François-Joseph, signe l'armistice de Villafranca, des préliminaires de paix, et il est obligé finalement de renoncer à aller jusqu'au bout de cette victoire, d'où le crève-cœur, le mécontentement profond des Italiens. Ça marquera profondément les Italiens, même si ils obtiennent le Milanais, ils obtiennent la Lombardie, mais n'obtiennent pas la Vénétie. Et ça laisse une blessure profonde. Cavour va d'ailleurs démissionner à la suite de ces préliminaires de Villafranca.
Mais Cavour reviendra, c'est ce que nous
très rapidement.
C'est ce que nous verrons dans un instant. Nous reprenons le cours de notre entretien avec Pierre Milza, qui évoque pour nous la guerre de Crimée et de manière générale la politique étrangère de Napoléon III. Alors nous sommes en Italie, la paix de Villafranca vient d'être signée, il y a une certaine peur de Napoléon III et une déception évidente du côté italien. Cavour, vous le rappeliez, démissionne et il revient tout enchanté, j'allais dire, quelques semaines après, quand est publiée la fameuse brochure « Le pape et le congrès ». Quel est le contenu de cette brochure ?
Le contenu de cette brochure est très clair. C'est une... c'est la Garonnière qui l'a... Si, mais tout le monde sait que c'est Napoléon III qui a voulu et rédigé en partie ce texte. Napoléon III demande très clairement au pontife romain, après avoir fait évidemment des déclarations de fidélité à la papauté, lui disant en gros, la grandeur de la papauté, c'est pas le temporel, c'est le spirituel. Donc il est temps que la papauté renonce en fin de compte à ces territoires qui sont des territoires en pleine ébullition, et il lui suffira d'avoir la souveraineté sur Rome et sur le Latium. Donc c'est un véritable coup très dur. Alors les Italiens sont évidemment très contents, le pape est furieux et les catholiques français sont furieux. C'est très important en politique intérieure parce que c'est le moment où Napoléon III va perdre. Non pas l'appui de tous les catholiques, n'exagérons pas, hein, mais l'appui d'une bonne partie du parti catholique. Là, il y a un poids très fort de la politique étrangère sur la politique intérieure.
C'est un tournant du règne ?
C'est incontestablement un tournant du règne. Et comme il est presque contemporain, ce sera un petit peu après, du traité de commerce avec l'Angleterre. Le traité de commerce avec l'Angleterre, c'est-à-dire le libre-échange où il perd une partie de ses appuis économiques, enfin des appuis du grand patronat français, notamment des industriels, d'une partie des industriels. Alors les catholiques catholiques et les industriels, ça l'amène à rechercher d'autres alliances, et ces alliances, il va les chercher du côté des classes populaires. Donc c'est un vrai tournant de politique étrangère, mais aussi de politique intérieure.
Alors il laisse faire l'Italie, il laisse faire l'unité italienne, il a ce fameux mot, faites la paix, mais faites vite.
Faites vite. Alors on n'est pas absolument certain qu'il a dit fate presto. C'est ce que racontent les envoyés piémontais, mais on a que leur compte rendu à eux. Donc on n'a pas de compte rendu français des départs. Bah, enfin bon, la réalité est là, qu'il l'ait dit ou qu'il ne l'ait pas dit, c'est comme Pierre Laval et l'Éthiopie en 1935. Le résultat est le même. Et effectivement, il va laisser faire, c'est-à-dire qu'il va laisser les envoyés du Piémont dans les pays de Romagne, de Toscane, dans les États pontificaux, organiser les plébiscites qui sont des succès immenses à 80 ou 90% les Italiens vont voter pour leur attachement au Piémont, ce qui va permettre de créer leur royaume. On avait pensé au départ à un royaume d'Italie du Nord, enfin, on est maintenant un royaume d'Italie. En 1860, l'Italie est née.
Alors l'Italie donc va suivre son chemin bien évidemment, et l'unité italienne va se réaliser. Que pense Napoléon III lors de la réalisation de cette unité italienne? Est-ce qu'au fond il n'a pas le regret de voir une unité complète alors que quelques années auparavant il pensait à une division tripartite?
Ah mais tout à fait, après 1860, d'ailleurs il tiendra le choc jusqu'en 1870 avec le maintien des troupes françaises à Rome. Il estime que bon, l'Italie a ce qu'elle mérite, elle a ce qu'elle devait nommer, pas l'Italie, le Piémont a réalisé cela, mais il ne faudrait pas aller plus loin. Mais il ne peut rien faire, parce que l'étape suivante, c'est la conquête de la Sicile et d'Italie du Sud par Garibaldi, et à ce moment-là, presque toute la péninsule est italienne. Alors, il regrette un petit peu, mais enfin finalement, il va quand même jouer les bons offices en 1866, au moment où l'Autriche est en guerre contre la Prusse. Et il y a eu un accord, il s'est mis d'accord avant avec Bismarck, pour que contre la neutralité, contre la neutralité française, l'Italie reçoive la Vénétie. Donc, après la victoire de Savoie, l'Autriche va céder à la France la Vénétie, qui va la rétrocéder à l'Italie. Dans l'intervalle, il a eu ce que Bismarck appellera son pourboire, c'est-à-dire il a eu la Savoie et Nice. Après la proclamation du Royaume d'Italie, n'oublions pas que, conformément aux accords de Plombières, la France reçoit Nice et la Savoie.
Est-ce que 1866 n'est pas au fond l'erreur majeure de la politique étrangère?
Alors, la première erreur majeure, ça a été d'aller perdre son temps de l'autre côté de l'Atlantique. On peut en dire un mot si on en a le temps. Mais c'est vrai que c'est l'erreur majeure, c'est-à-dire il va pas jouer à fond l'Autriche contre la Prusse. Et là, incontestablement, il y a une erreur d'appréciation sur ce qu'est devenue la puissance prussienne. Il voit encore la puissance prussienne à l'époque de Frédéric II, une grande armée, mais pas derrière cette puissance industrielle et démographique. Alors, il le perçoit un petit peu après Sadova, en 1867, en tentant une grande réforme militaire qui est un grand échec. L'un des grands échecs, parce qu'après tout, si l'armée française avait eu les effectifs suffisants en 1870, on n'aurait peut-être pas eu le scénario qu'on a eu. Et c'est l'échec de la réforme Niel, c'est-à-dire la volonté, qui est une idée qui vient de Napoléon III. Bon, l'armée française peut aligner 250 000 hommes en temps de paix face à une armée prussienne qui en a 800 000. Donc il faut faire quelque chose. Et l'idée, c'est d'établir un service militaire obligatoire. Alors, c'est pas un service militaire obligatoire, je veux dire, c'est le tirage au sort et la possibilité de racheter les mauvais numéros. Mais là, il a contre lui la défection d'une partie de la classe dirigeante, le corps législatif le lâche et il ne pourra pas faire voter cette loi. Donc ça, c'est incontestablement une défaite intérieure. Mais vous avez raison, la grande erreur du règne, c'est de ne pas avoir suivi l'Autriche, du moins appuyé l'Autriche en 1866, parce qu'après, il n'a plus en face de lui que la Prusse. Et ça sera l'inévitable règlement de compte avec la Prusse.
Alors peut-être un mot sur la Pologne et la question polonaise et ses conséquences sur sur les alliances ou en tous les cas les amitiés de Napoléon. La Russie ne devient plus cet allié?
Bien sûr, à partir du moment où les révoltes polonaises est dirigée contre les Russes, à partir du moment où la France, quand même, où Napoléon III est lui-même pris par ce courant polonophile qui est très fort en France, dans différents secteurs d'ailleurs, de l'opinion, à droite comme à gauche, il est amené à avoir beaucoup plus de rigidité face à la possibilité d'alliance russe, et il rate l'alliance russe. Donc c'est incontestable que là l'affaire polonaise est pour beaucoup également dans l'isolement, dans ce qui va être l'isolement de la France en 1870.
Pouvait-il éviter au fond le traquenard, si vous me passez cette expression de Bismarck, hein?
Oui, il y a d'abord pourquoi s'être engagé dans cette candidature au trône espagnol. Pouvait-il éviter le vrai piège qu'a tendu Bismarck avec la dépêche d'Ems? Non, Bismarck de toute façon était décidé. Il cherchait véritablement le prétexte. Était-il vraiment nécessaire alors que le roi de Prusse avait donné, bon, de manière un petit peu hautaine, son accord, bon, le retrait de la candidature Hohenzollern, d'en rajouter un petit peu, peut-être pas. Là, il y a une maladresse, mais il y a une maladresse qui est très vénielle, en quelque sorte. La grande erreur, c'est d'avoir, évidemment, d'avoir face à cette gifle qui a été la dépêche de ne pas chercher au dernier moment peut-être un compromis. Mais là, alors, effectivement, il y a deux choses qui ont joué. La maladie de l'empereur, n'oublions pas ça. C'est pas de la petite histoire, c'est pas de l'anecdote. Il est vraiment très malade. Il a maladie de la pierre, calcul dans la vessie. Il a quand même perdu beaucoup de son tonus. Et puis c'est vrai qu'il y a un parti de la guerre que l'impératrice y pousse. Alors n'exagérons pas le rôle de génie dans pendant toute la période. Mais là, face à un empereur quand même qui est malade. Vous savez, Eugénie, une grande dame, Eugénie, hein, on l'a chargée d'une mission. En 1856, c'est de faire un enfant et d'en faire le successeur de la dynastie. C'est la mission qu'on lui a imposée. Alors elle va aller jusqu'au bout de ça. Et pour elle, perdre que le prince impérial, elle sait que l'empereur n'a plus pour très longtemps à vivre, hein, et que le prince Louis perde son honneur sur le Rhin en ne relevant pas, si la France ne relevait pas le défi, pour elle, ça serait une faute majeure. Dont le fait qu'effectivement, elle n'a pas retenu, elle a un petit peu poussé. Et puis, n'oublions pas quand même l'opinion publique, et notamment l'opinion publique parisienne. Il y a une vague nationale. C'est au début de la montée en force des nationalismes européens. Il y a une formidable vague nationaliste. Il y a un mouvement de rue. Il y a les Parisiens dans la rue. Alors, c'est pas vrai dans toute la France. Hein. La France rurale est beaucoup plus pacifique. On sait très bien que ce qui compte encore à cette époque, c'est Paris, c'est ce qui se passe à Paris, les révolutions, les contre-révolutions, les coups d'État et les émeutes. Et là, il y a une véritable action de la rue qui va à Berlin.
Alors, nous arrivons vers notre conclusion. Vous dites, Pierre Milza, justement, dans votre livre, dans les dernières pages de votre livre, qu'il n'est pas utile de comparer Napoléon le Grand à Napoléon le Petit étant le qualificatif de Victor Hugo. Est-ce que Napoléon III n'a pas laissé, au fond, un souvenir amer, précisément à cause de cette politique étrangère ?
À cause de ce... Il est vrai que Sedan a été déterminant.
Pourtant, mais... Sedan, c'est une défaite comme Waterloo fut une défaite.
C'est une défaite comme... Oui, mais... Oui, écoutez... Qu'est-ce qui fait cette image négative de Napoléon III? Beaucoup moins d'ailleurs dans l'histoire savante et dans les manuels scolaires que dans la mémoire collective des Français. Là, il y a un hiatus. Et le hiatus, je dirais que ce n'est pas les professeurs d'histoire qui l'ont créé, les professeurs de lettres. C'est Ultima Verba, il n'en reste qu'un, c'est des châtiments. C'est l'officier Victor Hugo. Et la Troisième République s'est largement construite contre l'Empire. Parce qu'il lui fallait une légitimité. Et dans le fond, là, l'élément fondateur, c'était Sedan. Alors vous dites, il y a eu Waterloo. Bien sûr, il y a eu Waterloo. Mais il y a eu Hugo pour héroïser Waterloo. On a héroïsé une défaite et on n'a pas héroïsé la... Pourtant, une défaite, celle de Sedan, où Napoléon III a plus payé, je dirais, de sa personne que Napoléon Ier à Waterloo. Puis ça, vous avez fait cette scène absolument dantesque de ce type qui marche sous la mitraille et donc qui est suivi par un médecin qui dit « L'empereur cherche la mort ». Et vous savez, les dernières paroles de Napoléon III, c'est au docteur Henri Conneau qui a fait fermer les yeux de la reine Hortense et qui va fermer les yeux de l'empereur. Les dernières paroles, c'est « Dis donc, Henri, on n'a pas été des lâches, hein, à Sedan. »
Eh bien, c'est sur ces derniers mots, Pierre Milza, que nous allons nous quitter. Je vous remercie vivement, encore une fois, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes historien, que vous avez publié de nombreux ouvrages, une biographie de Mussolini, que je conseille à nos auditeurs, paru aux éditions Fayard, et aussi, tout dernièrement, votre dernier livre, Napoléon III, une biographie de Napoléon III, paru aux éditions Perrin. Je donne rendez-vous à nos auditeurs à la semaine prochaine. Merci bien.
Merci à vous.